Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Cette semaine, nous avons fêté Notre-Dame de Lourdes le 11 février. C'était la journée mondiale des malades et c'était l'anniversaire de la première apparition de Notre-Dame dans cette grotte de Massabielle. Et on va raconter un petit peu cette journée du 11 février. D'abord, comment vous l'avez vécu? Alors, il y a le 11 février, puis il y a les jours qui précèdent avec ce flux de directeurs de pèlerinage qui arrivent là pour préparer toute l'année. Donc, il y a le 11 février, puis il y a tous les jours autour.
Oui, c'est ça, ce qu'on appelle les journées de Lourdes. Il y a eu beaucoup de directeurs de pèlerinage présents à Lourdes pendant ces 3-4 jours de congrès, de rencontres, de tables rondes, forums, conférences, célébrations, où ils ont été invités à faire eux aussi le chemin du jubilé, le chemin de proposer cette année pour les pèlerins de Lourdes en cette année jubilaire. Et ils étaient extrêmement nombreux. Et mon agenda a été bien bien rempli par divers moments de rencontres, de célébrations d'ouverture dimanche à la grotte, et puis bien sûr le 11 février la messe Notre-Dame de Lourdes en très très grande solennité avec une participation énorme de leur part, mais de beaucoup 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 de pèlerins venus comme d'habitude, très nombreux d'Italie, d'Espagne et puis d'autres régions du monde, de France, du diocèse. Un beau moment, une très très belle rencontre.
Alors on va revenir un petit peu sur votre homélie de ce 11 février justement. Vous avez beaucoup parlé de la joie. Vous avez expliqué que la joie, c'est pas un sentiment qui vient, que la joie ça se choisit, qu'il y a vraiment à un moment, une décision à prendre. Oui, je choisis la joie, même dans un monde qui peut paraître boueux, un peu crasseux.
Bien, c'est l'année jubilaire ou l'opportunité de l'année jubilaire qui me donne de creuser cette dimension importante de la foi. Je me souviens avoir été très marqué par la lecture de l'exhortation apostolique « La joie d'évangile » du pape François au début de son pontificat, qui est un texte majeur. Et j'aime repérer en effet que aussi bien le pape François dans ce texte que finalement l'écriture elle-même, dans, je pense à l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, verset 4, où j'aime lire dans l'invitation de Paul, « Soyez dans la joie, je vous le redis, soyez toujours dans la joie », comme une forme de commandement de la joie, de la même façon qu'il y a un commandement de l'amour. Alors, un commandement de l'amour, on a plus l'habitude, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, je vous donne ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. On a moins l'habitude à propos de la joie. Et je pense qu'il y a un lien très étroit entre les deux, et de la même façon que l'amour, étrangement, peut se commander parce qu'il est d'abord une décision humaine avant d'être un sentiment, et qu'il est ce que Dieu nous demande et nous commande. De même, il y a quelque chose d'analogue pour la joie, mais pas n'importe quelle joie, la joie que provoque la foi, la joie que provoque l'espérance, la vertu d'espérance qui donne de voir, de regarder le ciel et de marcher vers lui. Et c'est une attitude qui non seulement n'est pas conséquente, provoquée par l'ambiance du monde, c'est ce que j'ai essayé de développer dans l'homélie, et quand j'en parle, mais au contraire, c'est l'inverse qui va se passer, c'est-à-dire que cette attitude qui naît de la certitude d'être aimé de Dieu, qui naît de la certitude que donne la foi et l'espérance, cette décision de la joie va au contraire contribuer à transformer le monde. Elle n'est pas le fruit de l'ambiance du monde, mais elle va contribuer à façonner l'ambiance du monde. C'est exactement l'inverse. Alors c'est une attitude qui demande beaucoup de détermination, de courage aussi. J'aime penser que c'est la joie des martyrs qui chantent les louanges de Dieu alors qu'ils sont croqués par la dent des lions. Et c'est une attitude qui est prophétique et missionnaire aussi de l'Évangile, de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et l'Évangile des noces de Cana, lu le 11 février, était une belle occasion aussi de souligner cela. Dieu veut que la joie soit décidée, choisie, parce qu'il veut et il sait que l'homme est fait pour la joie. Enfin, voilà, il nous crée pour la joie de vivre avec lui pour toujours, hein, et nous devons être témoins de cela dès maintenant.
C'est parce que les malades peuvent à Lourdes goûter cette joie-là qu'ils sont si nombreux à venir chercher du réconfort, se ressourcer.
Sans doute, c'est évidemment un des éléments du message de Lourdes. Il y a beaucoup de larmes à Lourdes, beaucoup de larmes de peine, de toutes les peines liées à la maladie. Et le 11 février, on n'oublie pas que c'est la journée mondiale des malades et que Lourdes, les malades, donnent son identité, son âme un petit peu au pèlerinage à Lourdes, hein, vraiment. Hein. Donc on n'oublie pas cela. Alors ça peut paraître paradoxal. Mais en effet, quand on se fait pèlerin de Lourdes et qu'on s'y pose, qu'on observe, qu'on y séjourne, on observe que ces larmes sont souvent des larmes de joie d'une consolation retrouvée, d'une paix éprouvée, et puis la joie de la vie qui l'emporte sur la mort, quoi. Et là, qui se fait sensible à la grotte de Lourdes, tout est beaucoup plus facile. Et l'humanité est remise à l'endroit, et donc c'est une source de joie aussi.
Vous avez parlé aussi beaucoup de miséricorde en expliquant que Lourdes, c'est le lieu exemplaire pour ça, en matière de miséricorde.
Je rencontrais la veille du 11, donc le 10, dans le cadre des Journées de Lourdes, je rencontrais les prêtres qui étaient présents à Lourdes, venus pour participer aux Journées de Lourdes, dans l'hémicycle, près de l'église Sainte-Bernadette. Et je leur disais ma conviction que, à Lourdes, la grotte de Lourdes est tout entière évangile de la miséricorde. Et je leur ai partagé ce que le nonce m'a dit au moment de ma nomination, de l'insistance du Saint-Père pour que Lourdes soit bien un lieu où se donne, se vit, s'expérimente la miséricorde de Dieu. Ce sanctuaire est un sanctuaire de miséricorde et que ça se sache, quoi. Voilà. En gros, c'était ça le message ou la consigne du pape donnée au nonce et que le nonce m'a rapporté. J'ai insisté à la messe du 11 février pour dire qu'en effet, à Lourdes, personne ne se voit refuser la miséricorde de Dieu. Et que si par hasard, si cela arrive par excès de zèle ou incompréhension, qu'un prêtre refuse de donner la miséricorde, eh bien il a tort. Et je tiens à donner ce message fortement. À Lourdes, personne ne se voit refuser la miséricorde.
Vous pensez à un public en particulier qui pourrait se voir refuser la miséricorde ?
Toutes celles et ceux qui s'approchent du cœur de Jésus doivent recevoir l'expression de cette miséricorde. Toutes celles et ceux. Il y a toutes sortes de gens qui se croient écartés de l'amour de Dieu, en tout cas qui se croient écartés de l'amour de l'Église. Eh bien, Lourdes doit être un lieu où cela est réparé.
Par exemple, les divorcés, remariés.
Ben, eux, parmi beaucoup d'autres, enfin toutes les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, se sentent parfois rejetées, écartées, quelles qu'en soient les raisons. Voilà, tous. Je ne citerai pas ceci ou cela. C'est tous, 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 comme a dit le pape au JMJ de Lisbonne en 2023.
Alors nous avons donc commémoré la première apparition de Notre-Dame dans cette grotte de Massabielle. Au fond, à quoi ça sert que la Vierge Marie, elle apparaisse comme ça sur Terre, alors devant Bernadette, mais ailleurs, en France et partout dans le monde, à quoi ça sert que la Vierge Marie nous rende visite sur Terre ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de sa visite pour croire en elle ?
Comme d'habitude, devant cette question, je répondrai à rien. Ça sert à rien, mais vraiment. Et juste avant la messe du 11 février, il y avait une émission sur KTO, un plateau où j'étais interviewé avec le docteur de Franchisis, médecin du bureau médical, médecin en charge du bureau médical de Lourdes, par Philippine de Saint-Pierre. Et c'était à propos des miracles. Et je précisais que les miracles ne servent à rien, entre guillemets. Ils ne servent pas à prouver l'existence de Dieu. Ils ne servent pas à forcer la foi. Voilà. Donc de ce côté-là, la question « à quoi ça sert ?» à rien. Voilà. Simplement, on est témoin de cette initiative de Dieu. On observe que Dieu prend cette initiative, que Marie prend cette initiative d'apparaître ici ou là, de faire la grâce d'une guérison, d'un cadeau, de ce qu'on appelle un miracle. Ce sont des signes que Dieu donne, voilà, des signes complètement gratuits, qui servent à rien, mais qui accompagnent le chemin des pèlerins que nous sommes. Et cette année, c'est l'occasion de reprendre le thème de l'année jubilaire, pèlerin, l'espérance. Eh bien, cette espérance, elle a besoin de temps en temps, de petits moments où on vérifie, en quelque sorte, qu'on est sur le bon chemin. Mais c'est pas le miracle qui va provoquer le chemin. Le miracle est donné pendant que l'on est sur le chemin, comme un encouragement à poursuivre la route, mais certainement pas pour la contraindre, si j'ose dire, ou pour la provoquer au départ.
Ça veut dire que ce ne sont pas les apparitions qui ont fait de la petite Bernadette une sainte.
Elle n'était pas sainte, elle l'est devenue en répondant fidèlement à l'appel commun à la sainteté. Elle est, comme elle a dit un jour qu'on l'avait amenée à Betharam pour rencontrer Michel Garicoit, tenu déjà pour saint, quelqu'un s'est exprimé, alors qu'elle sortait de ce rendez-vous, je crois, pour lui dire « mais toi, tu es assurée d'aller au ciel ». Et elle a répondu « ben le ciel, si je veux y aller, comme n'importe qui, il faut que je le mérite », entre guillemets. Ça veut dire que la sainteté de Bernadette et dans sa fidélité à vivre l'Évangile, point barre, comme pour tous. Et les apparitions, elle n'y est pour rien. Elle a accueilli l'initiative de Dieu, et ensuite elle a vécu sa vie en conséquence de cette grâce que Dieu l'a faite. Et Dieu nous fait à tous la grâce d'une visite, la grâce de la foi, la grâce d'un appel, et notre sainteté à tous, et on est tous appelés à la sainteté, réside dans le fait d'être fidèle et de répondre fidèlement à cet appel.
Voilà, et bien dans quelques jours, nous fêterons Sainte Bernadette après avoir fêté Notre-Dame de Lourdes. Vous célébrerez là aussi la messe au sanctuaire ?
Eh bien non, cette année, exceptionnellement, le 18 février, je ne serai pas à Lourdes, mais au nom de Lourdes, je serai à Liverpool pour participer aux célébrations très très solennelles qui sont organisées pour le 71e miraculé de Lourdes qui vient d'être reconnu par Mgr McMahon, l'archevêque de Liverpool, le 8 décembre dernier. Et donc, il m'a invité pour prêcher au cours de la messe de Sainte-Bernadette à Liverpool, le 18 février.
Eh bien, nous serons pour vous au sanctuaire de Lourdes pour prier Sainte-Bernadette, pour prier avec elle. Et donc, évidemment, ça, c'est un jour que les chrétiens des Hautes-Pyrénées aiment beaucoup parce que, voilà, on se met nous-mêmes dans les pas de Bernadette. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Le programme de cette journée est sur le site du sanctuaire lourdes-france.org. On se retrouve la semaine prochaine, Monseigneur, pour un nouvel entretien. Et d'ici là, très belle fête avec Sainte-Bernadette.
Avec grand plaisir et très, très belle semaine à tous nos auditeurs.